Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Vous êtes le bienvenu dans ces nouveaux numéros de YouJob, la passerelle entre l'employeur et l'employé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant que la plupart des chercheurs d'emploi aiment en tout cas. Et c'est d'ailleurs une question pour eux. Pourquoi ils sont ghostés? Pourquoi, après avoir postulé quelque part, ils n'ont pas des feedbacks, des recours, des retours? Alors aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir un expert dans le domaine. Il est actuellement directeur capital humain chez Activa Assurance RDC. Bonsoir à Monsieur Jacob Alfred Mounango.
Bonsoir Monsieur.
Un plaisir de vous recevoir dans YouJob. Je disais que vous avez près de 20 ans d'expérience dans les ressources humaines. Vous êtes passé par British American Tobacco. Vous êtes passé par Zen à l'époque, qui est devenu aujourd'hui Airtel, Procredit Bank, Tigo et même Ibas Africa. Mais il y a un point qui vous anime en tout cas et qui vous a fait réagir notamment sur les réseaux sociaux, c'est le phénomène ghosting à l'issue du processus de recrutement des entreprises congolaises. On en parle aujourd'hui, mais avant d'aller tout droit au but, j'aimerais d'abord que vous nous parliez bien sûr de comment fonctionne le processus de recrutement dans notre pays, parce que aujourd'hui c'est cette position de RH que vous occupez chez Activa, et avec toute l'expérience que vous avez bien sûr une idée, un avis afin d'éclairer toutes les personnes qui postulent parfois mais qui ne comprennent pas comment ça fonctionne.
Alors, si je veux dire que le processus de recrutement, d'abord, ce sont des processus un peu standards, reconnus dans la pratique de la gestion des ressources humaines. Et cependant, s'il faut essayer de contextualiser en République démocratique du Congo, nous pouvons catégoriser ça en deux sections. D'abord, le processus de recrutement dans le secteur public. Et dans le secteur privé. Vous verrez que dans le secteur public, c'est vrai qu'il y a une procédure bien établie, mais on sent plus l'influence politique qui entre en jeu. Et vous voyez, ça a un impact sur la qualité du personnel, la qualité de la productivité des services également. Et nous avons d'autre part dans le secteur privé. Dans le secteur privé, vous avez des institutions multinationales faisant partie des groupes, je dirais panafricains ou internationaux, et qui standardisent, qui essayent d'aligner leur processus de recrutement sur le plan standard, des standing internationaux, où nous passons d'abord par l'analyse des besoins du personnel. On établit le profil et voilà, on essaie de s'aligner avec la réglementation sur place qui veut qu'il faut publier auprès de l'Office national de l'emploi. Et voilà, vous publiez également, on essaie d'analyser le profil avec le profil reçu et le profil voulu. Essayez un peu d'aligner. Et ceux qui sont pratiquement à 75%, qui correspondent pratiquement à 65%, 75% déjà, et sont maintenant invités pour la suite du processus suivant la procédure interne de chacune des institutions. Donc, et suivant le besoin, il y a d'autres institutions, pour ne pas citer les noms, mais qui passent par des campagnes pour recruter des jeunes sans expérience qui vont former. Il y a des institutions qui orientent leur recrutement sur le personnel expérimenté. Donc, tout dépend de la politique interne et des attentes. Mais ce qui est vrai, la procédure c'est identique. Vous voyez ?
Donc elle est identique, c'est presque les mêmes démarches que vous suivez, mais chaque entreprise a sa politique, a sa réalité,
sa réalité,
sa conduite. Mais vous avez mentionné au départ quelques réalités, on l'appelle comme ça, et notamment sur le plan politique.
Oui.
qui crachent quand même.
Oui, mais quand vous voyez les recrutements dans les institutions publiques, c'est voilà, la liste du parti, la liste du parti. Et est-ce qu'au niveau du parti, il y a un casting qui s'est fait sur base des compétences, profils, donc savoir, savoir-être et savoir-faire, avant d'orienter, ou c'est, ça dépend de l'engagement de la personne au sein du parti.
Ça, donc, c'est, une question... c'est un problème. En tout cas, qui revient tous les jours, parce qu'aujourd'hui, dans certains postes au sein des institutions, il faut être affilié à un parti politique. Mais est-ce que le parti a des animateurs qui ont ces compétences pour aller occuper ces postes?
C'est ça également. Je pense qu'on peut bien encadrer cette... parce que c'est la pratique. L'idéal, c'est comment on peut encadrer ça. Est-ce que les partis politiques qui...
Comment l'encadrer? Donc, c'est plus possible des...
Comment encadrer? C'est ça. Comment encadrer? C'est-à-dire que je vois au sein du parti, ils ont souvent des commissions qu'on appelle des ambitions professionnelles. Mais s'ils mettaient au moins des recruteurs qualifiés qui pourront essayer de rendre leur démarche un peu beaucoup plus objective et impartiale. Parce que le problème est que c'est la finalité, la productivité de l'appareil de l'administration publique est impactée par cette situation. Je ne vous cache pas, je fais face à certains inspecteurs de travail dont, à la fin, je pensais que c'était moi qui leur donnais la formation.
Vraiment.
Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça.
Alors, en face, on est recruteur, on est expert, on maîtrise... Le recrutement, les processus de recrutement, mais il y a des exigences de l'institution, de l'entreprise face à telle situation. Comment vous faites?
Là, je ne sais pas, vous parlez dans le cadre des institutions publiques ou privées?
Vous êtes, bien sûr que vous êtes dans le privé, mais un conseil, bien sûr, ou bien un avis à ceux qui sont dans les institutions publiques.
Vous savez... Dans le temps, les ressources humaines étaient prises comme un support. À l'époque, on parlait encore du personnel. Le personnel constituait un coût. Mais aujourd'hui, le rôle des ressources humaines a changé. Donc, c'est vraiment un capital à considérer. C'est la clé de la stratégie de la société, la clé de l'atteinte des objectifs de la société. Donc, vous voulez atteindre vos objectifs. Donc, il faut veiller sur la qualité du personnel que vous recrutez. Parce que ce sont des personnels qualifiés qui donnent, qui produisent des résultats qualifiés et des résultats escomptés.
Les compétences doivent primer. Mais ouais. Il y a quelque chose que vous condamnez, c'est les ghostings dans le processus de recrutement. Pourquoi?
Alors, je veux vous dire qu'avant d'être recruteur, j'ai été aussi candidat. Ok, je vais vous passer cette anecdote où j'ai été convié dans une entreprise en 2008. J'ai passé mon interview, j'ai passé tout et mes entretiens. C'était une dure épreuve, mais à la fin, ils m'ont contacté pour dire voilà, vous êtes notre candidat idéal. Voilà la rémunération, ainsi de suite. Et voilà, nous vous attendons. On va vous inviter pour vous notifier. Vous allez recevoir notre notification d'ici peu, jusqu'aujourd'hui.
Vous comprenez? C'est resté comme ça.
Comme ça. Donc, c'est une situation qui a un impact sur le candidat. Vous ne savez pas planifier, vous ne savez pas vous projeter, parce que vous savez que je me suis investi dans un projet et j'attends le résultat. C'est une frustration. Et au final, ça crée une certaine rupture de confiance entre, d'une part, les recruteurs et les candidats. Et je peux vous dire que j'ai pu analyser ces deux semaines via une publication que j'avais faite, que ce n'est pas un problème congolais. Je pense qu'au niveau de l'Afrique francophone, il y a eu beaucoup de réactions qui me poussent à dire qu'il y a cette rupture de confiance entre d'une part les candidats et les recruteurs, mais c'est dû à cette situation où on met fin à une relation sans communiquer à l'autre que la relation a pris fin. Donc, alors directement, ça change la perception du candidat. pour le candidat, le processus de recrutement, c'est juste
pour embellir.
C'est pour embellir, pour essayer de donner l'impression que les choses ont été faites en avance. Alors, je dirais que c'est faux, mais c'est plutôt que nous, les recruteurs, nous devons réajuster des choses pour remédier à cette situation.
Alors, existe-t-il un schéma idéal à suivre pour les recruteurs par rapport à cette question ?
Alors, c'est vrai. J'ai vu des gens disent, mais quand nous avons des recrutements de masse, c'est vrai, avec des recrutements de masse où vous avez 1000 candidats, vous vous posez la question. Comment répondre à tous ces candidats ? Je pense qu'on peut réajuster les choses en amont. Mais je pense que ceux qui ont été déjà conviés pour entretien, pour interview, c'est possible de notifier à ces gens-là, de faire par... Les remercier, je dirais d'abord, le feedback c'est quoi ? Remercier la personne pour le temps qu'il a pris, encourager son profil et lui faire part que voilà, nous sommes dans le regret de ne pas retenir votre candidature pour la suite, mais lui l'encourager parce que voilà, faire annoncer une personne, une nouvelle décevante, mais il faut aussi quelque part l'encourager pour la suite de son processus. Mais c'est vrai, il y a certains candidats qui ont cette audace quand même de poser maintenant qu'est-ce qui n'a pas marché. On les encourage, voilà, le tel point, tel point, tel point. Mais moi, par mon expérience, après chaque entretien, j'accompagne le candidat et en l'accompagnant, je peux dire, voilà, madame, vous savez, lors d'interviews, il faut éviter de vous amener avec le chewing-gum, voilà, vous avez mentionné tel point, ça donne du valeur ajoutée dans votre profil, mais vous n'avez omis de mettre ça sur votre CV. Donc on a des échanges un peu amical, voilà, avec le candidat.
Alors selon votre observation, qu'est-ce qui ferait que les entreprises aujourd'hui de plus en plus ne donnent pas des feedbacks?
Bon, c'est vrai, vous savez, ces métiers RH est très dynamique. Ça change, ça évolue. Il y a des pratiques anciennes qui ne sont pas à jour, qui ont été revues en tenant compte de profils ou de l'orientation de gestion des entreprises. Donc certains sont encore dans la phase ancienne où voilà, le processus n'a pas abouti, vous partez et c'est tout. Mais d'autres ont compris que il faut essayer de valoriser votre marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que les entreprises, les collaborateurs ou les candidats ne viennent pas seulement parce que c'est une société qui a une certaine renommée, mais la marque employeur joue un rôle capital dans l'attraction des candidats. Et c'est là aussi que ça se manifeste par le respect qu'on a envers vis-à-vis des candidats. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi, nous connaissons des cas où on invite un candidat à 8 heures, il est là à 8 heures, on lui reçoit à 12 heures sans s'excuser. Donc ça fait partie des pratiques que nous devons tenir compte. Et voilà, et n'oublions pas, tout être humain a besoin d'une certaine considération et dignité.
Monsieur Jacob Alfred Mounongo, alors en vous suivant, j'ai noté quelques points qui contourne ces phénomènes. Déjà, vous avez notamment soulevé le point que le fait que les chercheurs d'emploi n'ont pas de feedback, ils se sentent frustrés et ils se créent même un certain climat de nervosité, des haines, des colères envers des recruteurs. Alors, derrière de ça, vous avez également mentionné l'aspect marque employeur. Alors, ces entreprises qui aujourd'hui, on comprend, c'est peut-être, vous avez dit que c'est aussi une nouvelle tendance de se rapprocher aux chercheurs d'emploi ou bien aux candidats. Alors, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas encore aujourd'hui pour migrer vers ces tendances? Et quels sont les autres points qu'ils ne maîtrisent pas encore et qui seraient vraiment à leur avantage?
Alors, il y a un élément qu'il faut tenir compte, c'est mettre à jour. C'est mettre à jour. Souvent, nous sommes retrouvés dans ces milieux sans passer par une formation spécifique en gestion des ressources humaines. Nous avons vu ce que nos superviseurs faisaient On a adopté ça et on continue. Mais si vous ne savez pas vous mettre en jour, vous ne savez pas lire, comprendre ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe chez les autres, pour vous améliorer votre approche des gestions et des recrutements, ça sera difficile. Vous voyez ? Ça sera un peu difficile.
Alors, est-ce que vraiment ce n'est pas du populisme ? Est-ce que vous faites vous-même, est-ce que vous parvenez à envoyer un message à tous les candidats ? Parce que s'il y a 1000 candidatures, il y en a même. Il arrive, hein, surtout pour de grandes entreprises comme Activa, où il y a, je ne sais pas donner les chiffres, mais il y a beaucoup de personnes qui postulent. Alors, c'est un grand travail quand même de revenir vers toutes ces personnes.
Oui, j'ai dit un truc. Vous savez, les recruteurs aussi font face à beaucoup de défis. Il y a l'aspect timing du processus, l'attente de ces clients internes qui attendent des candidats, excusez-moi, pour des recrutements en masse, souvent ça pose problème. Vous avez 1000 candidats, c'est difficile de retourner vers eux. Sauf si vous avez digitalisé votre processus de recrutement ou vous enregistrez les données, vous savez appuyer sur un bouton pour envoyer des messages directement pour dire voilà, X, votre candidature n'a pas été retenue. J'ai bien dit, moi, dans mon approche, ceux qui ont été conviés pour déjà les interviews, entretiens, à la fin, je dois leur communiquer la situation. N'oubliez pas, l'expérience nous dit aussi que sur 1000 candidatures en RD Congo, vous avez pratiquement 80 bons candidats.
Donc, il y a encore un problème de maîtrise, des connaissances, des cultures. Et puis, comment il faudrait postuler ? Il y a encore un problème du côté de candidats. Donc, il y a un défi technologique chez les recruteurs, parce que si vous avez beaucoup de candidatures, vous ne saurez pas répondre à toutes ces candidatures parce que vous n'avez pas assez d'outils adéquats.
Je peux dire oui. Vous savez, l'avenir des ressources humaines aujourd'hui est intimement lié à la technologie. Donc vraiment, surtout avec l'intelligence artificielle qui définit vraiment la suite de notre métier. J'ai dit que ceux qui ont digitalisé leur processus, ils arrivent à atteindre tout le monde dès le départ. C'est-à-dire dès que la personne postule, il sait déjà avoir l'accusé de réception que votre candidature a été retenue. Il sait avoir un feedback que votre candidature n'a pas été retenue pour l'étape suivante. Mais j'insiste, moi, ceux qui passent l'interview déjà, à la fin du processus, je contacte tout le monde.
Alors, c'est un défi, mais quel est le plus grand défi que vous rencontrez pendant un processus de recrutement ?
C'est la qualité des candidats.
Ah, et déjà, quand il y a des candidatures et seulement 80...
La qualité des candidats, je comprends qu'à l'université, on ne nous a pas appris comment engager ce processus de recherche d'emploi. On ne nous a pas appris ça. Donc, des fois, le recrutement ou postuler est devenu un peu comme une loterie. Voilà, on tente la chance. Et on ne lit pas, on ne prend pas soin de lire l'offre, d'analyser les profils ou compétences requises par rapport à soi-même. Mais on tente la chance et c'est ça aussi, la finalité, c'est la frustration. Vous voyez, je donne l'exemple, on dit que j'en cherche un directeur d'audit, 15 ans d'expérience. Vous voyez des gens qui ont besoin de stages postulés. Vous voyez, donc quelque part, vous vous posez la question, est-ce qu'ils prennent ça au sérieux ou bien comment ? C'est suivant ça. Et je peux même, pour moi, conseiller les universités à organiser certains colloques avec des professionnels, des recruteurs professionnels et avec leurs étudiants afin de les préparer. Mais je vois aussi dans la tendance actuellement plusieurs formateurs, recruteurs qui donne ses formations, des ateliers sur comment
aller chercher l'emploi. Est-ce que ces ateliers ont un impact aussi, déjà ?
Oui, oui. Ça impacte réellement.
Alors, pour un internaute, des offres qui proviennent du secteur privé en République démocratique du Congo sont pour la plupart fake, juste pour maquiller la communication. Mais en interne, les recrutements se font par procuration, clientélisme ou relation. Tout le Congolais conjugue ces verbes, d'ailleurs. Alors, vous êtes à la tête de ressources humaines d'Activa. Vous êtes passé par plusieurs autres sociétés. C'est vrai, on parle aussi des secrets professionnels. Mais honnêtement, quand même, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet internaute?
Alors, j'ai quand même du mal. J'ai à réagir comme ça. J'ai vu des commentaires de certains demandeurs d'emploi ou certains étudiants ou c'est voilà, je pense pas. Si je dois passer par mon cas, ok, je vous dirais qu'avec Procrédit, j'ai lu l'offre sur Media Congo. Je sais pas si c'est interdit de citer. J'ai lu l'offre sur internet, sur Tigo, c'est passé sur le site de l'un de vos concurrents. Chez Access Bank, la même chose. La première fois que je suis entré au bureau de l'employeur où je suis aujourd'hui, c'est le jour de mon entretien. Donc, j'ai vu l'offre sur LinkedIn et je postulais. Donc, c'est paradigme, c'est cette situation où les candidats se mettent déjà dans la position de perdant et ils dégagent une énergie négative autour d'eux-mêmes.
Mais est-ce que ce n'est pas motivé par les réalités qu'ils rencontrent ou c'est plus le problème de manque d'information que vous avez mentionné au départ, puisqu'ils ne savent pas comment postuler, oui. Ensuite il n'y a pas de résultats et ça crée cette frustration, oui. Et puis beaucoup de gens qui postulent, il n'y a pas de retours, mais après ils voient quand même il y a des gens qui sont embauchés.
Ça fait partie, mais je pense que la première des choses, il faut que chaque candidat arrive à se remettre en question. Est-ce que ce que je fais, c'est exact? Aujourd'hui encore, ils ont tous les outils possibles. Ils ont YouTube, ils ont les sites internet pour aller poser des questions. Comment se préparer pour comment se préparer à une interview? Comment ils peuvent vraiment s'enrichir là et essayer de revoir des choses. Ils doivent être en mesure de comprendre que avant de postuler, je dois me rassurer que ma candidature, mon profil correspond au profil recherché. Essayez un peu de faire cette corrélation. Comme j'ai dit déjà, au-delà des 60%, vous avez encore la chance d'être interpellé. Vous avez la chance d'être invité. Voilà. Donc, c'est du côté d'abord des candidats. Parce que vous allez vous rendre compte, vous avez lancé 5 offres le même jour. Il y a un candidat qui envoie 5 demandes d'emploi à, voilà, donc ça y est, lui-même il postule au juridique, ressources humaines, logistique, finance. Vous comprenez d'ailleurs, à un moment donné, même le recruteur, dès qu'il voit seulement son CV, son nom, il va y passer, il comprend que la personne ne prend pas. Donc c'est...
Et s'il s'est senti quand même prêt à occuper de postes dans différentes casquettes, il est polyvalent.
C'est un peu, je vous dirais que c'est un peu difficile. Je donne un exemple, je suis licencié en droit, je sais déjà voir où je peux m'adapter. Mais quand on recrute, je donne un exemple, un laboratoire ou bien contrôleur des produits. Voilà, logiquement, je ne suis pas qualifié. C'est vrai, on dit voilà par la foi, mais est-ce que la foi vient lorsque les conditions sont requises et répondent, et là on peut mettre la foi et avancer. Mais voilà.
Donc, aux demandeurs d'emploi, essayez aussi de voir de votre côté ce que vous ne faites pas bien. Parce que c'est plus les recruteurs que vous condamnez. Mais sachez que vous avez également une forte responsabilité dans ce que vous cherchez. Mais ils sont allés plus loin. Vous avez mentionné la frustration, elle est vraiment immense. Il y a même un autre internaute qui suggère quelque chose d'énorme. Alors, est-ce que serait-il raisonnable aujourd'hui d'inciter l'Office national de l'emploi à supprimer l'agrément de certaines sociétés de recrutement? Est-ce que pour certains chercheurs d'emploi, ces entreprises ne sont que de boîtes de connaissances?
Je ne pense pas parce que, excusez-moi, même on aime aussi, on fait pareil, s'il faut dire. Ou vous vous demandez des recommandations, vous avez des recommandations qui ne correspondent pas. Donc ça arrive. On ne peut pas mettre en mal plusieurs institutions parce que les candidats disent que ce sont des caisses de résonance ou ainsi de suite. Non. L'idéal, c'est encadrer chaque métier. Bon, comme on a vu, il y a une loi pour la création d'un ordre national des gestionnaires professionnels des ressources humaines. Je pense que ça sera un outil d'encadrement. On ne peut pas mettre en cause. Aujourd'hui, nous voyons même sur LinkedIn certains qui se disent chasseurs de têtes. Quand vous lisez son profil, il n'a rien de chasseur de têtes. Voilà, les conditions, les circonstances ont fait de lui un recruteur et il s'est fait chasseur des têtes, mais voilà, c'est les candidats qui vont en pâtir, vous voyez, parce qu'il a traîné à Sodeico, il a été là comme recruté comme délégué commercial, il a fait 5 ans pour, voilà, il bascule, il devient recruteur. Bon, si il a suivi ses formations, il s'est fait encadrer, je n'en disconviens pas. Il y a toujours possibilité d'émigrer, de quitter un secteur ou un métier à un autre. Mais il faut que la transition soit bien menée. Mais, donc, je ne pense pas qu'il faut retirer l'agrément à ces institutions. Mais on sait aussi qu'il y en a, certaines de ces institutions sont vraiment des sociétés malhêtes. Hein. Donc, là, oui.
C'est aussi une réalité.
Oui, c'est une réalité.
Mais qu'est-ce qui primerait ? Qu'est-ce qui prime, selon vous, dans les compétences d'un recruteur, dans la qualité d'un bon recruteur aujourd'hui ? On dit, OK, c'est un très bon recruteur, c'est les diplômes ou l'expérience ?
Les deux. Les deux. L'expérience, mais au lieu de parler de diplôme, je pense qu'il faut parler plutôt des qualifications et des formations qu'il peut suivre. Il peut bénéficier de coaching auprès des aînés, auprès des tierces personnes, okay, pour l'aider ainsi à atteindre à se mettre à jour et à bien mener sa mission.
En tant qu'RH, c'est quoi votre combat aujourd'hui?
Alors, le combat, il faut, je ne sais pas, par rapport au métier, je pense que c'est l'encadrement du métier. Il y a un ordre des avocats, il y a un ordre de médecins, il y a un ordre des experts comptables et je pense qu'on a besoin de cette structure qui va encadrer le métier. Okay? Encadrer le métier. Le plus grand combat, s'il faut dire, dans ces métiers, c'est non seulement l'encadrement sur le plan national, mais la compréhension du métier RH. C'est un métier très incompris. D'abord au niveau du management, qui ne comprennent pas trop c'est quoi le rôle RH. D'autre part, les collaborateurs qui pensent qu'on doit faire un peu comme les alliés des syndicats ou non. Nous sommes là pour concilier les parties afin d'atteindre les objectifs de la société. Donc l'idée, c'est vraiment valoriser, faire comprendre le rôle RH. C'est la première des choses. Encadrer le métier RH en RD Congo, c'est également capital.
Alors on parle dans le prochain mois, ou pourquoi pas, si tout va bien, dans déjà les prochaines années, l'avènement finalement d'un ordre de recruteurs. Vous avez également participé à cette démarche?
Je fais partie de la grande commission, ok. Je savais que le premier point a été déjà évoqué. mais les réflexions continuent et voilà.
Très bien. Alors, parlez-nous de votre parcours. Comment quand même vous vous êtes retrouvé au poste des recruteurs? Vos études, bien sûr, ne sont pas vraiment celles de qui pourraient finalement amener à une carrière des recruteurs.
Alors, recruteur fait partie d'une de mes branches, mais moi, je me vois plus comme un RH généraliste. Et voilà. Alors, mon parcours dans ces métiers, c'est toute une école, c'est une école, c'est toute une histoire qui peut motiver les autres. Donc, je n'ai pas commencé comme ça. Je m'ai spécialisé plus dans tout ce qui est bureautique. Et puis, il y a une société, j'ai un ami, là où il travaille, ils avaient besoin de quelqu'un pour venir apporter son assistance à la direction des ressources humaines, précisément dans tout ce qui est saisie des documents. Il y avait une urgence. Et j'ai été invité, je suis venu comme un journalier. J'ai travaillé pendant 3 semaines, je suis parti. Et après, il y a eu un besoin. Alors, j'avais laissé une bonne impression, tant sur le plan attitude que compétence. C'est ainsi qu'ils m'ont invité pour un contrat à durée déterminée. Et voilà comment je me suis retrouvé en ressources humaines.
Alors, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé en vous pour vous rappeler ainsi?
Je dirais que l'attitude compte beaucoup. Moi, je dis toujours, donnez-moi un collaborateur incompétent, mais qui a des bonnes attitudes, je sais les transformer à un expert. Mais un collaborateur compétent qui a des mauvaises attitudes, je ne saurais pas travailler avec lui. L'attitude, la disponibilité, vous comprenez? Et donner le meilleur, apporter des solutions, donner pour présenter des solutions, des idées. Je pense que c'est ce que je fais. Et je fais ce que je devais faire et au-delà de ce qui était attendu. C'est ce qu'ils se sont dit que peut-être que j'étais un diamant brut, ils pouvaient m'aider et ils m'ont donné cette opportunité. Voilà, bientôt presque 20 ans, on parle d'autre chose.
Alors, qu'est-ce qui a fait que vous ayez senti à l'aise quand même dans un domaine qui n'était pas le vôtre?
Alors, naturellement, vous savez, ces métiers ont beaucoup évolué. Hein. On a cessé d'être un peu des gendarmes, des OPG, mais on est maintenant de ceux-là qui accompagnent l'être, l'humain au sein de la société. Je pense que ma disponibilité à venir, à aider les autres, l'empathie, et sont deux éléments qui m'ont facilement aidé à m'intégrer et puis à avancer.
Parlant de votre expérience, vous avez rencontré des collègues et des collègues. Près de 20 ans d'expérience et énormément d'histoire. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut une remise à niveau de la plupart des recruteurs dans notre pays ou bien la priorité, c'est d'abord la création de cet ordre des recruteurs?
Alors, je veux clarifier. Je n'ai pas dit qu'au pays, on n'a pas de recruteurs qualifiés. Nous en avons beaucoup. Ils font leurs preuves ici, dans l'administration publique, privée, même à l'international. Okay? Donc, nous en avons beaucoup. Mais ce qui est vrai, il faut savoir que ces métiers de ressources humaines, c'est un métier très dynamique. Ça évolue régulièrement et il faut se mettre à jour et régulièrement. En termes de politique, des réglementations, en termes de pratiques, ça, c'est vraiment très dynamique. Et si tu ne sais pas suivre ces dynamismes, cette transition, ces changements, vous serez carrément hors course, s'il faut dire.
Donc, pour rester toujours dans les métiers et rester aussi dans les opportunités, vous retrouver, il faudrait toujours se mettre à jour. C'est d'ailleurs le cas aussi dans plusieurs autres domaines. Nous recevons plusieurs autres experts qui viennent nous partager presque les mêmes leçons. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis les débuts de l'émission. Je pense que les sujets vous intéressent parce que c'est tout le jour que vous vous posez ces questions. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, vous suivez YouJob, l'émission diffusée chaque mardi sur la 94 7h à 19h. Ne ratez pas les prochains rendez-vous, encore des sujets intéressants vous seront partagés pour ce soir. C'est un échange riche, hein. Déjà, moi, je note beaucoup de choses depuis que nous avons commencé cette belle causerie. Alors, nous allons passer à la prochaine étape. Notre invité du jour va nous faire ses confessions. En 20 ans, il y a quelqu'un quelque part qui serait très 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 curieux de découvrir ce que vous avez vécu, des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a certainement de jeunes qui commencent, qui s'élancent aussi, qui se retrouvent dans votre domaine. Mais si aujourd'hui, vous pouvez nous confier ce que vous considérez comme votre meilleure expérience?
Alors, la meilleure expérience, je dirais que c'est que je viens de faire depuis le mois de novembre, où il m'a été donné cette mission d'aller auditer et reformuler la politique RH d'une filiale à l'étranger. Et je suis allé, je dirais ça, c'est le couronnement, je peux dire couronnement de mon travail à ce jour. Nous avons reformulé, j'ai audité, j'ai reformulé la politique et les pratiques. Et aujourd'hui, ça a été reconnu au niveau de l'ensemble de la société. Et pour moi, c'est une fierté. Ça, c'est un. Et j'ai dit que ça, quand je vois certains de mes stagiaires aujourd'hui assumer des postes de responsabilité dans la gestion des ressources, ben ça, c'est ma fierté.
Quelle est votre pire expérience à ce jour?
Pire expérience, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il fallait carrément les années passées, il fallait créer suffisamment d'arguments pour faire partir quelqu'un, mais dont je savais qu'il était innocent. Mais c'était la hausse.
Ça, c'est une tâche très difficile, ça vous arrive souvent, que l'entreprise se décide.
La décision de la haute direction, et il fallait trouver des arguments et qui l'empêcheraient même d'aller à l'inspection. On a fait avec succès, mais on n'est pas trop fiers de ça.
Vraiment, ça fait bien sûr un peu mal. On va découvrir votre compétence professionnelle qui vous appréciez vous-même. Et vous dites que c'est la meilleure des qualités que vous avez.
Pour moi, c'est l'encadrement. Le côté humain que j'ai dans l'exercice mon métier qui a eu même un impact sur ma vie personnelle, le respect des collaborateurs, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, l'empathie, c'est-à-dire c'est mettre à la disposition de l'autre pour l'aider à avancer. Mais des fois aussi, je ne renonce pas aux missions impossibles.
Toujours déterminé, serein, que ce soit compliqué. Alors, comment vous voyez-vous dans 5 ans, on parle des 20 ans, dans les métiers, dans le domaine, mais dans 5 ans, nos auditeurs seront vraiment pressés de le découvrir?
Ok, dans 5 ans, moi, je m'oppose un peu à tous ces RH qui sont convaincus que la finalité d'un RH, c'est devenir consultant. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'un DRH peut devenir directeur général adjoint, peut devenir directeur général. Donc ça, c'est mes prochaines ambitions.
Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. On espère, nous croisons le doigt. On arrive déjà à la fin de notre émission. Et la toute dernière question, c'est un conseil. En tout cas, on termine par cette émission sans conseiller. C'est en même temps aussi pédagogique. Alors, un conseil. Un, pour les entreprises qui recrutent. Deux, pour les recruteurs. Et trois, pour le chercheur d'emploi. Si vous avez un conseil à partager à ces trois catégories d'acteurs, donc les entreprises qui recrutent, les recruteurs et les chercheurs d'emploi.
Alors, pour les entreprises qui recrutent, je prends surtout les agences ou les sociétés de placement, de recrutement. il est important de renouer la confiance avec les demandeurs d'emploi. Parce que les entreprises existent parce qu'il y a des demandeurs d'emploi. Donc, il faut adopter des bonnes pratiques qui vont amener les demandeurs d'emploi à renouer cette confiance avec vous. Donc, et également, confier des responsabilités aux personnes qualifiées. Ça, pour eux. Pour les recruteurs, je dirais qu'il faut se remettre toujours en question et chercher toujours à se mettre à jour, mais également changer également l'approche de jugement. Vous savez, souvent, nous jugeons des candidats en les comparant avec nous-mêmes. Oh, c'est pas possible. Je ne peux pas juger un candidat, les comparer avec moi. Moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience. Je ne peux pas juger un assistant RH sur base de moi. Donc, changeons un peu cette approche de jugement et cherchons à relever notre sens d'objectivité également. Analysons le profil et non les noms ou la personne ou le visage de la personne, mais tenons compte que du profil.
Et enfin, au chercheur d'emploi.
Chercheur d'emploi, il est important de... Vous avez tous les outils nécessaires pour changer ou bien remonter votre niveau et attirer beaucoup plus de chances de son côté en apprenant réellement comment aborder le marché d'emploi, comment se préparer pour à un entretien d'emploi, comment aborder les temps de recherche et se cultiver. Voilà, donc le recrutement, ce n'est pas une loterie. Ce sont des démarches très bien définies, des processus qu'il faut respecter afin d'aboutir. Donc, il faut bien se préparer, il faut se remettre en question. Et c'est vrai, nous sommes dans un environnement où le facteur chance est très...
Mis en avant,
mais il faut comprendre que c'est possible. Si au moins il y a 10% qui arrivent à trouver le travail de manière objective, donc vous pouvez faire partie de ces cercles restreints. Voilà.
C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, monsieur Jacob Alfred Munongo. C'était un plaisir de vous recevoir et de venir nous partager votre expérience, vos avis sur ces sujets. Mesdames et messieurs, à vous, je vous dis également merci de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet et un nouvel invité.
Merci.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.